Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est pas bueno. Europe 1.
15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Elle se définit comme franglaise, elle dont le cœur est moitié anglais, moitié français. Je reçois la romancière Tatiana Dronet, dont l'imaginaire se délecte des secrets de famille, s'interroge sur la mémoire des murs, met à jour les cicatrices du passé et dans son nouveau roman, Les fleurs de l'ombre, anticipe sur un avenir proche où l'intelligence artificielle tentera de voler à l'homme la magie aléatoire de son inspiration, de sa créativité, de son imagination. Les fleurs de l'ombre, eh bien, paraissent chez Robert Laffont et Loïs d'Ormesson. Et on part en balade avec Tatiana Dronet.
Europe 1.
Bonjour Tatiana.
Bonjour.
Alors, chère Tatiana Dronet, c'est important un nom, hein. C'est un passeport subjectif. Le vôtre fait très nom d'écrivain ou nom de peintre. Vous savez, on pense à Daphné du Maurier ou Tamara de Lempicka. En fait, votre nom est si romanesque qu'on pourrait croire que c'est un pseudonyme, mais pas du tout.
Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise lors de dédicaces « C'est quoi votre vrai nom ?» Donc je suis obligée de montrer ma carte d'identité pour prouver que c'est vraiment mon vrai nom.
Merci papa, merci maman. Alors Tatiana vous vient de votre grand-mère russe.
Oui.
Votre maman est anglaise. D'ailleurs son père, Lord Jem Gladwin Jebb, fut ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris. Mais votre père, le scientifique Joël de Renais, lui est originaire de l'île Maurice. L'île Maurice dont 70% des habitants sont d'origine indienne. Ça en fait des brassages et des cultures autour de ce nom de Renais.
C'est vrai. Et même il n'y a pas très longtemps, j'ai été obligée de prouver que j'étais bien française, figurez-vous, parce que je suis née à Neuilly-sur-Seine, pas très originale, d'une mère anglaise née à Rome et d'un père franco-russe, né à l'île Maurice. Et donc, comme mes parents sont nés à l'étranger, j'ai dû prouver que j'étais bien française. Et ça a donné naissance d'ailleurs à un roman qui s'appelait À l'encre russe. Ça a été tellement épique de prouver que j'étais française.
Que vous en avez fait un roman.
Oui. C'est le point de départ d'un roman, c'est vrai.
Voilà, la vie sert de matière, on le sait, aux écrivains. Alors, en tout cas, Tatiana Dronet, avec une maman anglaise et un père français, vous possédez à égalité donc les cultures de deux pays qui adorent se détester, n'est-ce pas ?
C'est vrai.
D'ailleurs, vous dites avoir un cerveau hybride, un cerveau franglais. Mais quelle singularité ça apporte à votre façon de décrypter le monde, d'être franglaise ?
Je pense que quand on est né avec deux langues maternelles, quand on a appris très vite à parler ces deux langues couramment, et quand on a peut-être deux visions de deux pays, qui c'est vrai, adorent se détester ou détestent s'adorer, mettez ça comme vous voulez, eh bien ça vous donne peut-être un point de vue assez particulier. En fait, vous n'êtes pas cantonné à une seule vision. Et très vite, j'ai compris que mon père et ma mère n'étaient absolument pas du même endroit, et que c'était peut-être une richesse d'ailleurs, et que peut-être que je pouvais bénéficier de cette richesse. Et comme ils sont à la fois très complémentaires et très différents, moi ça m'a permis d'avancer dans une certaine idée de la, on va dire, de la tolérance tout simplement,
ouais.
De comprendre que personne n'est pareil, que chaque pays a sa vision. Je vous cache pas cependant, Isabelle, ça c'est pas un secret,
que
le Brexit a été pour moi particulièrement douloureux.
Ah ben voilà, on va l'évoquer tout à l'heure,
oui.
Bien sûr, douloureux, dites-vous.
Oui, douloureux, oui. Absolument, le divorce de mes racines.
Le divorce de vos racines, on va en parler. Mais restons sur la littérature, vous dites que c'est la littérature anglo-saxonne qui a façonné votre imaginaire. En fait, adolescente, vous préfériez lire les Sœurs Brontë plutôt qu'Alexandre Dumas, c'est ça ?
Mais je précise quand même que je suis allée vivre avec mes parents très tôt aux États-Unis, puisque mon père était attaché scientifique au MIT, à Boston.
Oui, oui.
Et donc, nous sommes tous partis vivre là-bas à la fin des années 60. Et donc, c'est vrai que les livres que j'ai commencé à lire, ce n'était pas tant Les Malheurs de Sophie ou Jules Verne, que j'ai lu bien
ou
sûr
les
plus
trois
tard,
mousquetaires.
Mais c'était plutôt Enid Blyton, Le Club des
oui,
Cinq.
Oui, Le Club des Cinq, c'est voilà, ça, romancière anglaise.
Exactement, donc je pense pouvoir vous dire en toute honnêteté que ma passion pour les livres, pour la littérature, sont venues, en tout cas au départ, au début, par le biais des romanciers anglais, anglo-saxons.
Alors, vous écrivez, Tatiana Dronet, vous écrivez indifféremment en deux langues, ce qui est très rare. Mais pourquoi certains de vos livres sont écrits en anglais alors que d'autres sont écrits en français ? Ça dépend du sujet ?
Tout ce que je peux vous répondre, c'est que la langue s'impose, mais il y a toujours un moment d'hésitation. Il y a toujours un moment quand j'ai le choix, ça y est, j'ai choisi, on va dire, l'anglais. Il y a le français qui dit « Oh, mais pourquoi pas nous ?» et vice-versa. Et c'est un déchirement, en fait, de choisir une langue sur l'autre. Et c'est, après, c'est, ce qui est très compliqué aussi, c'est d'accepter la traduction que quelqu'un fait de vous. Parce qu'en tant qu'écrivain bilingue, jusqu'ici, j'ai laissé les traducteurs me traduire d'anglais en français ou de français en anglais.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre ça. Puisque vous êtes parfaitement bilingue, pourquoi n'est-ce pas vous qui avez proposé les versions françaises des récits écrits en anglais ?
Parce que j'ai très sagement écouté mes éditeurs qui, à l'époque, me disaient « Tatiana, tu ne peux pas te traduire toi-même, c'est un métier, il faut une certaine distance avec son texte que tu n'as pas. » Et moi, je disais « Ah mais oui, d'accord. »
Vous en êtes l'auteur de ce texte.
Oui. Mais en même temps, je dois vous avouer que je déteste traduire. L'acte de traduire, je n'aime pas. Et ce n'est pas parce qu'on est bilingue qu'on est naturellement traducteur. Mais pour ce nouveau livre, c'est une autre histoire. J'ai fait quelque chose de très nouveau. Peut-être qu'on en parlera.
Mais bien sûr, voilà. On va en parler. Non, mais je vous posais la question sur le fait de pouvoir écrire indifféremment oui. En deux langues. Bon, elle s'appelait Sarah, qui demeure jusqu'à présent votre best-seller international vendu à 11 millions d'exemplaires, des chiffres qui donnent le vertige. Bah, ce livre, dont le cœur de l'intrigue est la rafle du Veldiv, qui a broyé tant de destins, vous l'avez écrit en anglais, et pendant presque 3 ans, tous les éditeurs français l'ont refusé, et vraiment de Bernard Fixot à Isabelle Lafon, sous prétexte justement que, d'abord, le manuscrit était en anglais. Vous vivez donc quand même dans un pays qui est assez réfractaire à votre langue maternelle, Tatiana Dronet.
Je pense que beaucoup d'éditeurs, d'abord, ont été étonnés que le texte soit en anglais. Ça les a, on va dire, désarçonnés. Et puis après, je pense aussi pouvoir vous dire que le sujet ne les intéressait pas. Nous sommes en 2000-2002, hein, il y a longtemps déjà.
Ouais.
C'était encore très tabou d'oser parler de la rafle du Veldiv. Je me souviens d'éditeurs qui m'ont dit « Mais c'est pas un sujet qui va intéresser les gens. Pourquoi vous n'écrivez pas quelque chose de plus léger, de plus romantique ?» On m'a quand même...
Pour un livre qui s'est vendu à 11 millions d'exemplaires.
Mais il a été refusé aussi par des éditeurs américains. Il a suffi d'une femme, hein, Héloïse d'Ormesson, qui a eu la folie ou l'audace de publier ce livre, et ça a commencé comme ça.
Vous n'aviez pas de légitimité parce que vous n'êtes pas juive.
On m'a dit ça aussi. Ça m'a un peu choquée qu'on me dise ça. Je suis française. Cette tragédie s'est passée dans mon pays, fait partie de mon histoire. Donc j'ai été très étonnée qu'on me dise ça. Je pense qu'on ne pourrait plus dire ça aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, on le disait.
Tatiana Dronet, vous confiez ne pas être un auteur littéraire, mais un auteur populaire. Donc plus qu'un écrivain, vous vous considérez comme une conteuse d'histoire.
Non, les choses ont changé. Depuis Manderley Forever, j'ai pris un virage plus littéraire en mettant mes pas dans ceux de Daphné du Maurier. Ça m'a apporté beaucoup d'autres lecteurs, des lecteurs différents, des lecteurs plus exigeants. Et depuis...
Mais c'est vous, au départ, qui êtes devenue plus exigeante avec votre prose ?
Oui, mais en même temps, je dirais que on m'a mis dans une catégorie d'emblée, best-seller égale écrit avec des pieds, hein, pour schématiser.
Pour schématiser, mais oui. Best-seller, c'est pas mal.
D'ailleurs, oui, je suis ravie d'être un auteur qui se vend bien, mais très souvent, les auteurs qui se vendent bien, on dit d'eux, ils savent pas écrire.
Une prose facile.
Donc, Sentinelle de la pluie est un livre beaucoup plus littéraire, et Les fleurs de l'ombre... J'essaye de, on va dire, à l'instar de la grande Daphné du Maurier, dont je suis tellement l'admiratrice, c'est-à-dire de garder mes armes d'auteur populaire qui me plaisent, mais aussi d'engager mes lecteurs dans des voies peut-être plus exigeantes, en parlant, bien sûr, de Virginia Woolf, de Romain Gary, et en ayant une exigence d'écriture que je n'avais peut-être pas avant.
Europe 1.
Eh bien, il est temps de plonger dans le nouveau roman « Les fleurs de l'ombre » qui paraît chez Robert Laffont et Loïs d'Ormesson. Roman d'anticipation inquiétant qui nous questionne sur ce qui restera de notre intimité quand l'intelligence artificielle tentera de percer tous nos secrets. A tout de suite avec Tatiana Dronet.
Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invitée, aujourd'hui la romancière Tatiana Dronet.
Tatiana Dronet, qui fait paraître chez Robert Laffont et Loïs d'Ormesson Les fleurs de l'ombre. Et cet après-midi, mon invité Tatiana Dronet, l'homme rêve. Pour l'instant, les robots ne rêvent pas encore, mais l'intelligence artificielle n'a pas dit son dernier mot. Et ce défi à peine voilé en ce début de millénaire, voilà, voler à l'homme son imaginaire, ses rêves, son inspiration, sa créativité, sa sensibilité artistique, eh bien tout ça est au cœur de ce nouveau roman. Alors comment parvenir à mettre en algorithme, la magie aléatoire de l'inspiration, c'est ça? Vous pouvez nous planter le décor des fleurs de l'ombre?
Le décor, c'est tout d'abord une héroïne, Clarissa Katzeff. une femme qui, au début de mon livre, est bouleversée. Elle vient de faire une découverte terrifiante concernant son mari. On n'en dit pas plus pour l'instant. Et donc, fragile, à fleur de peau, elle cherche un nouvel endroit pour vivre. Un peu ironique pour une écrivaine qui fut géomètre dans une autre vie, donc obsédée par les lieux, par les endroits. Et elle accepte, d'une façon, on va dire, un peu trop hâtive, d'emménager dans une résidence artistique de haut niveau, hyper connectée, qui s'appelle Casa, qui loge que des artistes, qui sont triés sur le volet. Elle se dit, bah, pourquoi pas, au moins je pourrais me reconstruire là, je pourrais être tranquille. Et donc elle emménage dans un endroit, au dernier étage d'un immeuble moderne, magnifique, qui surplombe un nouveau quartier de Paris. Et très vite, Isabelle, elle va se sentir espionnée, mal à l'aise. Et c'est là où j'invite mon lecteur, tout simplement, à surfer sur la paranoïa de Clarissa. Qui est derrière Casa? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qui sont tous ces auteurs, ces poètes, ces sculpteurs qui vivent dans cette résidence Casa? Clarissa va mener une enquête.
Voilà, résidence, en fait, dont la domotique semble ne pas gérer seulement l'intendance des appartements, c'est ça?
Exactement.
Mais donc, veut aller bien au-delà. La domotique,
La domotique, c'est ce qu'on appelle aussi smart home en anglais. Ça veut dire que ce sont ces maisons connectées qui sont censées, bien sûr, agrémenter votre vie de tous les jours, régler votre chauffage, la sécurité de votre appartement, projette vos mails sur les murs, il y a un assistant virtuel qui vous parle, etc. Mais très vite, Clarissa commence à comprendre qu'elle est tout simplement espionnée. Dans quel but? Et c'est là où elle mène une enquête qu'on est libre de suivre ou pas, mais avec les premiers retours de lecture que je commence à avoir maintenant...
On va jusqu'au bout.
Et ben, justement, voilà, qui est derrière Casa?
Alors, ce roman, Tatiana Drones, se déroule dans un avenir proche, mais oui. Proche de combien d'années? Il nous transporte à Paris dans 25 ans, dans 30 ans?
Ah non. Si vous regardez bien, je ne donne pas de date, exprès.
Mais c'est pour ça que je vous pose la question.
Par contre, je vous donne un gros indice qui est, au moment des Jeux Olympiques, donc en 2024... Dans ce roman, bien sûr, nous espérons pas dans la réalité, mais il y a un terrible attentat. Et on comprend...
Alors, je ne savais pas que c'était ceux de 2024. Ça pouvait être d'autres Jeux qui reviennent à Paris dans les années 2040.
Donc, c'est 2024, plus 10 ans. Donc, on est en 2034, très précisément, mais ce n'est pas écrit dans le livre. Donc,
alors,
dans 15 ans.
Il y a dans la capitale, donc Paris, des jardins aux plantes artificielles sans oiseaux, sans insectes, sans aucun bruit de la vie. Mais surtout, on projette... En hologramme, la tour Eiffel qui s'est effondrée après un attentat mené par des drones. Les attentats ont d'ailleurs ravagé à cette époque-là la place Saint-Marc, ils ont détruit Big Ben, ils ont pulvérisé la chapelle Sixtine. Tout cela, l'effondrement de l'ancien monde, en fait, on l'apprend après avoir lu les 100 premières pages. Car au départ, vous parlez de l'effondrement d'une tour sans qu'on sache qu'il s'agit de la tour Eiffel.
J'ai fait exprès.
Bien sûr, le récit démarre dans un monde presque calme et surtout, c'est affreux, presque résigné.
Oui, calme, résigné, c'est-à-dire que dans 15 ans en fait, puisque c'est là où se situe mon livre, il y a ce faux calme qui m'a beaucoup intéressée, ce nouveau quartier qui a poussé de ses cendres, ses faux arbres. Et Clarissa est une femme d'un certain âge, on va dire, qui a connu toutes les époques, qui a connu une époque sans Internet, qui a connu l'avènement du numérique et du digital. Et c'est pour ça en fait que j'ai voulu une héroïne senior, entre guillemets, pour qu'elle puisse comparer. Mais Clarissa est quelque part dans l'œil du cyclone, puisqu'elle veut sentir que cet appartement est comme un refuge. Mais très vite, elle va comprendre que Casa n'a rien d'un refuge.
Voilà, et affreusement intrusif. Alors, ce livre, Les Fleurs de l'Ombre, vous l'avez dédié à votre père, Joël de Renais.
Oui.
Docteur en sciences, spécialiste des technologies avancées. Vous dites que, en fait, il vous a appris à regarder le futur, Joël de Renais.
On a la chance, mon frère, ma sœur et moi, d'avoir un père scientifique tellement curieux de l'avenir et tellement positif sur l'avenir et qui nous a appris à nous projeter sans angoisse, sans nous dire « Mon Dieu, qu'est-ce qui nous attend ?» Ce livre est né des conversations que j'ai eues avec mon père, passionnantes comme toujours. Je lui ai beaucoup tiré les verres du nez à son insu. J'allais pas lui dire « Papa, veux-tu être conseiller scientifique et technique de mon livre ?» Mais tout ce qu'il m'a raconté sur la domotique justement, ces salles de bain connectées, vous vous regardez dans la glace, si vous mettez votre main sur une plaque spéciale, on peut prendre votre tension, on peut savoir si vous avez un glaucome, quelle est votre santé. Enfin, tous ces moyens incroyables qui existent déjà, en fait, moi je les ai emmenés à un stade supérieur. Et ce qui m'a fait très plaisir, Isabelle, c'est que quand mon père a lu ce livre Je redoutais son avis, hein, vraiment beaucoup.
Ouais.
Il l'a lu très récemment parce que je voulais lui envoyer à la dernière minute. Il m'a envoyé un long message en me félicitant, en me disant que je ne m'étais trompée sur rien et que j'ouvrais la porte à toutes sortes de questions. Voilà.
Alors, vous ouvrez la porte à toutes sortes de questions, dont la question majeure est... Alors, l'intelligence artificielle sera-t-elle un jour transcrire en algorithme l'inspiration et la magie aléatoire de la créativité humaine? Vous êtes optimiste, sachant que l'optimisme, ce serait de croire qu'elle n'y arrivera pas. Vous êtes optimiste?
Je suis... Et là encore, je cite mon père. Mon père a très souvent dit « Je suis un optimiste inquiet ». Je pense que si on ne garde pas notre optimisme, on va droit dans le mur. Le futur est angoissant. Le futur nous fait peur. Mais en même temps, c'est là où on va passer le reste de notre vie. Donc, c'est en parlant, c'est en se projetant qu'on peut, il me semble, pouvoir l'habiter plus confortablement. C'est vrai aussi que, avec ce monde de plus en plus déshumanisé, de plus en plus robotisé, il me semble que la seule chose qu'on puisse faire en tant qu'être humain, c'est de vraiment trouver notre place en tant qu'être humain, de la garder. Et qu'est-ce qui nous rend humains, Isabelle ? Eh bien, c'est le contraire des algorithmes, c'est l'émotion, c'est la fragilité, c'est l'impression de ne pas être parfait. Les robots réussissent tout, on le sait aujourd'hui, ils sont capables de faire des opérations, ils sont capables de prédire des choses. Nous, les êtres humains, nous avons quoi ? Notre imaginaire. Je pense sincèrement, je peux me tromper, je ne suis pas une spécialiste, je pense sincèrement que les robots ne pourront jamais nous prendre notre imaginaire parce que notre imaginaire est né de quoi ? Du doute, des craintes, des peurs. Tous les grands artistes ont créé leurs plus belles œuvres parce qu'ils doutaient, parce qu'ils avaient peur. Si tout le monde vivait dans un monde de bisounours, on ne créerait rien. C'est la peur qui nous fait créer, c'est la petite fêlure, c'est la petite blessure qu'on a dans nous qui nous fait créer. Et je pense qu'un robot ne pourra jamais saigner, ni physiquement, ni mentalement. J'espère.
On se promène en compagnie de Tatiana Dronet cet après-midi. C'est passionnant, on se retrouve tout de suite.
Europe 1. Il est 15h23, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite sur Europe 1 avec Isabelle Morizet et son invitée cet après-midi, Tatiana Dronet, qui fait paraître Les Fleurs de l'Ombre, l'histoire d'une romancière aux prises avec un assistant virtuel machiavélique.
Chère Tatiana, quand t'as 11 ans, on reçoit de son père une machine à écrire parce qu'on a déclaré que plus tard on sera écrivain. On n'a plus d'autre choix que de le devenir.
Ah, ça c'est une histoire tellement merveilleuse. J'écrivais déjà à la main, hein. J'avais des cahiers que je noircissais. Et puis mon père avait cette petite Olivetti verte.
Oui.
Que je vois encore, elle n'était pas grande. Et le bruit qu'elle faisait, c'était la sienne. Et il avait peut-être dû investir dans quelque chose de plus sophistiqué, je pense. Et il m'a dit, tiens Tatiana, prends ma machine. Donc je me revois, au début, en train de taper avec deux doigts.
Oui, parce que ça ne doit pas être évident. Passer donc de l'écriture manuelle à une Olivetti, on a l'imaginaire qui galope bien plus vite que la mécanique, justement,
mais
des doigts.
J'ai appris à taper à la machine très tôt. Et après, bien sûr, grâce à mon père toujours, il y a eu l'avènement des ordinateurs qu'on a eu très tôt dans notre famille, puisque les premiers ordinateurs, je les ai vus arriver à la fin des années 70, début des années 80, dont je suis passée tout naturellement au clavier de ses premiers Macintosh, comme on les appelait. Et c'est vrai que l'écriture à la main, je dédicace évidemment à la main, je prends des notes à la main.
D'Ormesson écrivait, puisque vous êtes publié par sa fille, Héloïse d'Ormesson, Jean d'Ormesson écrivait à la main, refusait de se servir d'ordinateur.
Nous ne sommes pas de la même génération, lui et moi.
Oui, certes.
Non, mais c'est vrai que je suis une adepte du clavier, c'est vrai.
Alors, je reviens à vos 11 ans à cette époque-là. Vous rêviez de devenir, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Enid Blyton, la romancière anglaise qui a écrit Le Club des Cinq. Vous qui vous définissez comme franglaise, votre premier roman, vous l'avez écrit en anglais. Donc, on a tendance à croire que c'est quand même la langue du cœur, l'anglais, non ?
Je ne suis pas totalement d'accord avec vous, parce que dans cette fameuse caisse dans ma cave, où il y a écrit « Ne pas publier si je meurs », il y a dedans tout ce que j'ai écrit entre l'âge de 10 et 30 ans qui n'a pas été publié, vous avez un mélange de tout en anglais et en français, vous avez un journal intime, vous avez des poésies, vous avez des textes érotiques, vous avez un roman scientifique, vous avez des nouvelles.
Des pièces de théâtre.
Des pièces de théâtre, vous savez mieux que moi. Et c'est dans les deux langues. Et sachez quand même que le premier livre que j'ai publié, quand j'ai eu le courage d'aller apporter mon travail à un éditeur, parce que je n'osais pas, j'avais 30 ans, celui-là était en français.
Et
je l'avais écrit pour mon père et pour mon mari, à qui je parle en français. Donc la langue du cœur, j'ai deux langues du cœur. Si vous me demandez de choisir entre les deux...
Vous ne le ferez pas.
Je ne peux pas.
Alors, Tatiana Dronet, il faut dire que... Bon, vous avez grandi vraiment dans une famille haute en couleurs, dont tous les personnages avaient des vies romanesques. Votre grand-mère paternelle, flamboyante et séductrice en diable, appartenait à la noblesse russe et avait fui au péril de sa vie la révolution de 1917, n'est-ce pas ?
C'est vrai.
Votre grand-mère maternelle, elle, était mariée à l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, Lord Gladwin Jebb. Donc, votre mère était fille d'ambassadeur, ce qui n'a pas facilité la tâche de votre papa, jeune étudiant, sans le sou quand il a décidé d'aller à l'ambassade de Grande-Bretagne demander la main de votre maman. Enfin, tout ça sont des débuts de roman.
Ah, mais complètement. Et puis, je termine l'histoire. Donc, imaginez mon père, du haut de ses 22 ans, fou amoureux de la fille de l'ambassadeur, c'était pas du tout prévu, il s'était rencontré dans une boîte de nuit à Saint-Germain-des-Prés. Donc mon père va demander la main de ma mère à son père. Imaginez la scène, ce grand monsieur un peu austère qui était mon grand-père maternel, et puis mon père, petit étudiant scientifique, grand danseur, qui dit « voilà, je voudrais épouser Stella », et mon grand-père qui répond « avez-vous une assurance vie ?» Il avait 22 ans. Et bon, ils ont quand même réussi à se marier, mais c'était pas prévu.
Et il paraît que votre maman a presque fait une grève de la faim.
Oui, elle a fait une grève de la faim, elle était déjà très mince, donc elle est devenue encore plus, c'était, paraît-il, assez inquiétant, mais elle a réussi à épouser son Jojo, comme elle l'appelle, et voilà. Et donc je suis, on va dire, le résultat de cette... Deux cultures qui... Voilà, ces deux ennemis héréditaires qui réussissent quand même de temps en temps. Vous voyez, par exemple...
Il parlait très mal anglais, paraît-il, votre papa.
Il parlait très mal anglais.
Il a rencontré votre
mère.
Ce
n'est plus le cas aujourd'hui.
Bah, j'espère.
Oui, mais il a toujours un petit French accent qu'il a gardé.
Mais il y a quelque chose aussi de musical et de chantant dans votre voix. Je ne sais pas si nos amis auditeurs captent ça. Parce qu'il y a l'ombre de l'ombre d'un accent anglais quand
peut-être.
Vous... Parler français.
Ah, c'est drôle ça, j'avais jamais pensé à ça. Peut-être, vous avez raison.
Alors, trois enfants sont nés de cette union, je parle de vos parents. Et la carrière de votre père à Boston a fait de vous une petite américaine. Mais quand l'Institut Pasteur a sollicité votre père, bah, il a fallu rentrer à Paris. Alors, il paraît, Tatiana Dronet, qu'à cet âge-là, à l'adolescence, vous trouviez absolument ridicule tous ces chanteurs français qui faisaient tout pour singer les chanteurs américains. On parle bien sûr de Johnny et d'Eddie.
Vous êtes bien renseignés.
Voilà.
Mais c'est vrai que quand je suis revenue vivre en France, dans les années 70, c'est que je voyais Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Dick Rivers, qui imitaient tellement les chanteurs américains. Je trouvais ça très drôle, un peu pathétique. Alors, je ne veux pas du tout être méchant avec ces grands chanteurs français qui le sont aujourd'hui, mais c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient tellement singer les Américains et pourquoi ils prenaient des noms tellement américains alors qu'ils avaient d'autres noms, hein, d'autres, enfin des noms peut-être à consonance très différente. J'ai appris depuis à aimer leur musique, bien sûr. Mais je trouvais ça, jeune adolescente, vraiment totalement ringard.
Bon, votre père, prospectiviste, futurologue, a engagé l'Institut Pasteur dans le domaine des biotechnologies. La biochimie et l'informatique ont toujours été ses univers de prédilection. Ça fait longtemps qu'il pense en algorithme, mais vous, sa fille, bah, vous n'êtes pas du tout devenue une matheuse. Il paraît d'ailleurs que vous n'êtes pas très douée pour les chiffres.
Non, très très peu douée pour les chiffres.
Vous êtes toujours nourrie de romanesque. C'est quand même... étonnant quand on a un père qui est l'un des scientifiques les plus réputés de la planète.
Mais attendez Isabelle, il y a plein d'artistes dans ma famille. Mon grand-père, le père de mon père, Gaëtan de Ronet, était un peintre merveilleux, très discret. Du côté anglais, il y a aussi des artistes, des peintres. Donc en fait, j'ai la chance d'avoir un riche héritage culturel. Et on n'est pas toujours comme son papa. Heureusement, ma sœur a suivi les pas de mon père puisqu'elle a fait des études scientifiques. Mais il faut quand même que je vous avoue que mon père n'a jamais été déçu des choix.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser.
Non.
Il n'a pas tenté de vous aiguiller.
Ah, jamais. Et il a toujours été très respectueux de mes choix. Et puis surtout, je dirais que mon père est mon fan numéro un avec mon mari. j'ai quand même beaucoup de chance aussi. Il est fier d'avoir une fille romancière. C'est quelque chose qui est important pour lui. Il est toujours le premier à dire « Vous avez lu le dernier livre de ma fille ?» Il me fait une pub merveilleuse sur les réseaux sociaux. Non, non, il est fantastique, mon père. Je pense qu'il n'a aucun regret. Non, vous lui demanderez quand vous le verrez, mais je pense que non.
Bien sûr, hein. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai eu le bonheur de l'interroger à ce micro il y a quelques temps. On fait une pause, on retrouve tout de suite Tatiana Dronet.
Europe 1. Et jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invitée aujourd'hui, Tatiana Dronet.
Tatiana Dronet fait paraître chez Robert Laffont et Loïs d'Ormesson les fleurs de l'ombre. Et on se promène cet après-midi, chère Tatiana. Alors, lorsqu'une vingtaine, je dis bien, lorsqu'une vingtaine de maisons d'édition en France, pendant 3 ans, oppose un refus catégorique à la publication d'un manuscrit qui deviendra un best-seller planétaire se vendant à 11 millions d'exemplaires, ce qui est absolument rarissime. Je parle bien sûr de votre roman « Elle s'appelait Sarah » qui ensuite a été adapté au cinéma avec Christine Scott Thomas. Et ben voilà, que faut-il penser du monde de l'édition en France qui passe à côté d'un tel phénomène mondial de librairie ?
J'ai envie de vous dire que c'est assez banal en fait, dans le sens où il y a tellement de livres qui sont refusés.
Oui, parce que le vôtre, à la fin, a été accepté, s'est vendu à 11 millions d'exemplaires, oui. Mais vous pensez qu'il y a des best-sellers mais potentiels, oui, qui dorment pour toujours dans des tiroirs?
Mais je pense que tout ça, c'est une histoire d'étoiles alignées ou pas. En tout cas, je peux vous dire que c'est une très grande leçon d'humilité d'avoir tous ces refus, et que je ne les ai jamais oubliés. Ça m'a beaucoup troublée, dans un premier temps, je me suis posé beaucoup de questions.
Est-ce que ça vous a amené, par exemple, à penser, renoncer, oui, définitivement à l'écriture?
Bien sûr. À un moment, j'ai dit à ma famille, écoutez, voilà, personne veut de ce livre, j'ai mis mes tripes dans ce livre, ça n'intéresse personne, je vais continuer à écrire des scénarios, ce que je faisais déjà, j'étais déjà pigiste pour des magazines, je vais arrêter d'écrire des romans.
Et voilà qu'un jour, oui, Tatiana Dronet, je prends la balle au bon, voilà qu'un jour a lieu la rencontre inespérée avec la fille de Jean d'Ormesson, dont vous deviez faire un portrait pour le journal Elle.
C'est ça.
Héloïse, donc, d'Ormesson, que vous alliez voir en tant que journaliste, et pas du tout pour lui soumettre ce manuscrit dont vous pensez qu'il allait mourir dans un tiroir. Et là, il se passe quoi ?
Alors, Héloïse d'Ormesson, que je ne connaissais pas du tout, hein, je suis partie pour l'interviewer pour un journal, elle a eu ce livre entre les mains. C'est trop long de vous expliquer pourquoi, mais elle a eu ce livre entre les mains. Elle lit parfaitement l'anglais. Elle a aimé ce livre. Elle m'a dit qu'elle allait le faire traduire, pas par moi. J'ai accepté ça, parce qu'en plus, je ne vous cache pas que je l'avais écrit, ça faisait déjà 5 ans que je l'avais écrit, et l'idée de me replonger dedans et de le traduire me paraissait impossible. Donc elle l'a fait traduire, et très bien traduire, par Agnès
Michaud.
Oui,
vous avez été satisfaite de la traduction.
Tout à fait. Et moi, je pensais que cette petite maison d'édition, je pensais que j'allais avoir des ventes.
Faire un succès d'estime, quoi.
Oui, c'est ça.
Dans le meilleur des cas.
Et donc, ça a été un déferlement complètement inattendu et incroyable qui a changé nos vies, et la sienne et la mienne. On a fait un très beau chemin ensemble, elle et moi. Vraiment, ça a été une rencontre capitale dans ma vie, vraiment.
Oui. Et votre éditeur est devenu votre ami. Alors, Héloïse d'Ormesson dit, à l'étranger, ce livre, elle s'appelait Sarah, a autant plu que déconcerté ses lecteurs, car les Français tenait dans ce roman le mauvais rôle, dans un drame qui se déroulait donc en France et parlait de collaboration, la rafle du Veldiv. Donc ce livre, il a libéré la parole un petit peu partout dans le monde. Vous avez fait d'ailleurs de très étonnantes rencontres tout autour de la planète, à l'occasion de dédicaces.
Oui, des rencontres, alors d'abord extrêmement émouvantes, de personnes qui ont vécu de très près cette tragédie par leur famille. Donc des histoires, je pourrais faire un autre roman, hein, des personnes que j'ai rencontrées grâce à Sarah. Ce livre, en fait, il me suivra toute ma vie. Même si j'ai un autre succès, j'en ai eu d'autres, hein, Sarah sera toujours là comme un troisième enfant.
Et d'ailleurs, en parlant, après la sortie de ce livre, avec des personnes qui avaient traversé la Shoah, vous avez appris que beaucoup d'enfants juifs cachés par leurs parents n'avaient jamais été retrouvés.
Oui, et puis surtout, j'ai appris aussi, grâce à ce livre, ou à cause de ce livre, cette parole qui ne se libère pas. Pendant tellement longtemps, ces secrets de famille qui durent 60, 80 ans. En fait, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est comment ce livre a réussi à libérer la parole de famille. J'ai reçu des lettres bouleversantes de gens qui m'ont dit, grâce à votre livre, j'ai pu enfin parler à ma grand-mère qui m'a raconté ce qui est arrivé ce jour-là pour la première. Mais tout autour du monde, hein, dans des voyages que j'ai pu faire, les gens m'ont fait des confidences magnifiques. Et c'est encore, je reçois encore des lettres très bouleversante de personnes touchées par ce livre.
Oui, là c'était une clé dans,
oui,
la porte.
Exactement.
Alors, Tatiana Dronet, est-ce que vous avez assisté au tournage de cette histoire que vous avez imaginé seule dans le silence de votre minuscule bureau sous les toits de Paris et qui est devenu donc un film porté par Christine Scott Thomas et distribué dans le monde entier?
Alors, je vous précise que j'ai la joie d'avoir 4 films qui ont été adaptés de mes livres.
Mais je sais.
Et j'ai assisté à tous les tournages et j'ai parfois des petits rôles.
Non. Est-ce que vous apparaissez dans Elle s'appelait Sarah?
Oui, mais on me voit de loin. Mais je suis comme Hitchcock. J'apparais comme ça, je traverse la scène comme ça, mais le film où on me voit le plus, c'est Mocha. oui. ou avec Nathalie Baye. Nathalie Baye me fait une manucure et on me voit très très bien pendant une longue minute. Et très souvent, j'ai des mots de mes lecteurs en disant « Je vous ai vu !» Donc en fait, c'est un peu un jeu que j'ai avec mes lecteurs. Ils arrivent à débusquer le moment où j'apparais. C'est toujours très rapide. Hein.
C'est formidable. Tatiana oui. Dronet, bon, 11 millions d'exemplaires vendus d'un même livre, ça donne le vertige à n'importe quel auteur. Comment écrit-on le suivant ?
Ça, c'est pas passé comme ça. N'oubliez pas que j'ai écrit ce
je
livre...
Je vous dis ça pour vous forcer oui,
oui.
à
mais j'ai écrit ce livre en 2002. Le temps qu'il soit publié, 2007. Donc, j'ai eu le temps quand même d'écrire d'autres livres. Et quand Elle s'appelait Sarah, pendant qu'il était traduit, en train d'être traduit, moi, j'écrivais déjà Boomerang. Mmh. Donc, j'ai pas eu tous ces regards sur moi, genre, mon Dieu, comment je vais faire.
Il a mis quelques années à atteindre le chiffre prodigieux de 11
oui,
millions d'exemplaires vendus.
Oui, bien sûr, ça s'est pas passé comme ça du tout. Il y a eu le film qui a rajouté une couche, etc. Donc, ça s'est pas du tout passé d'un seul coup. Voilà.
Alors, parmi vos thèmes de prédilection, Tatiana Dronet, bien sûr, il y a la mémoire des murs, les cicatrices du passé, les secrets de famille, mais surtout, il y a la notion d'enfermement, qu'on retrouve d'ailleurs dans le dernier livre, Les fleurs de l'ombre. Oui. Pourquoi ce fantasme obsessionnel de l'enfermement, vous qui avez toujours vécu dans des maisons heureuses, même si certaines en Angleterre étaient également habitées par des fantômes?
Les lieux sont un espace romanesque tellement puissant. J'ai été tellement inspirée, petite fille, adolescente, par des romans qui mettaient en scène des manoirs comme celui de Manderley dans Rebecca.
Celui de Daphné du Maurier.
Et puis les sœurs Brontë, quand même, Wuthering Heights, les Hauts de Hurlevent. Même dans Autant en emporte le vent. Tara, cette extraordinaire maison.
C'est un personnage.
La maison de Gatsby le Magnifique, la liste est très longue. Mmh. Donc les lieux ont toujours été pour moi comme des témoins. On tourne autour, on écoute au mur. Il y a une histoire qui sort.
Et votre appartement ou votre maison à vous?
Ah oui,
elle est. Vous vivez dans une espèce d'épure ou bien au contraire, c'est très chargé, beaucoup de toiles, beaucoup de bibelots, plein de choses qui vous parlent.
Alors, j'ai la chance de partager ma vie avec un homme qui a un goût très sûr, qui n'aime pas du tout qu'il y ait trop de bibelots, justement, trop de choses. Il a pas mal d'idées sur l'architecture, donc moi je me fie beaucoup à lui. Et très récemment, nous avons emménagé dans un appartement qui est sous les toits, qui ressemble pas mal à celui de Clarissa.
C'est vrai.
Dans Les Fleurs de l'Ombre.
Donc très contemporain.
Assez contemporain, mais il n'y a pas d'assistant virtuel.
Pas de domotique.
Non, mais il y a une vue magnifique sur Paris, qui m'a beaucoup inspirée.
Qui vous a inspirée.
Oui.
On retrouve tout de suite Tatiana Dronet.
Son dernier livre, Les Fleurs de l'Ombre, capte le parfum de l'air du temps, un récit fictif qui décrit un monde utopique et sombre. Depuis 15h, Tatiana Dronet est l'invitée d'Isabelle Morizet et la conversation se poursuit jusqu'à 16h. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Tatiana Dronet, je pose la question à la franglaise que vous êtes avec une mère so British, puisque fille d'ambassadeur de Grande-Bretagne en France et un père français. Le Brexit, ça vous a posé une question d'identité? Je suis anglaise, je suis française, et si je suis les deux, je suis au milieu de la Manche et je coule. Le Brexit.
Un moment extrêmement douloureux que je n'ai pas du tout digéré. Non, je n'arrive pas à comprendre, un, comment on a pu en arriver là, et deux, comment on va faire maintenant. C'est le divorce de mes racines. J'ai été élevée dans ces deux cultures qui pour moi étaient complémentaires. Je naviguais entre l'Angleterre et la France avec aisance. Je me sentais aussi bien chez moi en France qu'en Angleterre. J'ai fait mes études en Angleterre. J'ai toute ma famille anglaise là-bas. Et là, tout d'un coup, il se passe cet événement.
Mais que vous disent vos amis anglais de ce choix?
Alors, la plupart de mes amis anglais vivent à Londres. Et donc, on sait très bien qu'à Londres, la plupart des gens sont contre le Brexit. Mmh. Mais j'ai bien conscience que, à part les Écossais qui sont vent debout contre le Brexit... J'ai bien conscience qu'il y a beaucoup d'Anglais qui étaient pour, qui ont voté pour, et je ne comprends pas, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la mentalité des gens, dans les discours politiques? Ça s'explique, d'ailleurs, il y a eu un livre merveilleux qui s'appelle, par Jonathan Coe, qui parle du Brexit, le cœur de l'Angleterre, ça s'appelle, et qui raconte petit à petit comment cette méfiance est installée, le repli sur soi, toutes ces choses qui font que les gens se craignent. Toutes ces fleurs de l'ombre, hein, puisque c'est la fleur de l'ombre, ça veut dire la paranoïa, la peur, la peur de l'autre, la peur. Et au jour d'aujourd'hui...
Titre emprunté à un poème de Virginia Woolf.
Une phrase de Virginia Woolf. Et en fait, je me questionne encore aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner dans le futur, le Brexit ? D'ailleurs, dans mon livre, je le décris d'une façon, on va dire, hardcore, le Brexit. C'est-à-dire qu'il crée encore plus de problèmes, de différences et de sentiments d'insécurité et tout ce que je n'aime pas, en fait, tout ce que je ne veux pas.
Alors, le Brexit, mais pas que. Depuis la reine Victoria, la devise de la famille royale d'Angleterre, c'est « never explain, never complain », c'est-à-dire ne jamais se justifier, ne jamais se plaindre. Et il semblerait que cette devise, elle soit de plus en plus difficile à appliquer. Quelle spectatrice êtes-vous de la rébellion sous forme de coup de tonnerre du couple Meghan Markle et Harry, qui a décidé donc de faire une sorte de bras d'honneur à la monarchie et de s'installer bientôt à Los Angeles. En ce moment, ils sont au Canada, mais ils cherchent une maison à Los Angeles où Meghan Markle va reprendre le chemin des studios. Il y a une déchirure étonnante et lorsqu'on voit les photos de Harry, la toute dernière cérémonie à laquelle il a assisté en venant donc du Canada, son regard est d'une gravité incroyable. Il regarde ses chaussures pendant que son épouse, elle, rayonne d'un sourire très très professionnel devant toutes les caméras.
Alors comme tout le monde, hein, on est fasciné par cette histoire. Mais moi, je n'ai jamais oublié le petit garçon qui marchait derrière le cercueil de sa mère. Je n'ai jamais oublié ce petit garçon. Il a fait un choix. Je le trouve courageux. Maintenant, oui, vous avez raison, ça a fait un effet incroyable dans cette monarchie. Never explain, never complain. Moi, je le trouve courageux. Alors, va-t-il être heureux ? Est-ce que c'était la bonne épouse pour lui ? Je ne sais pas. Cette Meghan a l'air quand même de savoir exactement ce qu'elle veut et d'être extrêmement ambitieuse. Mais elle n'est pas bête. Elle a certainement plein d'idées. Ils ont eu un petit garçon magnifique. Moi, je leur souhaite tout simplement tout le meilleur du monde. Et je suis persuadée que de là-haut, Lady Di, elle les regarde.
Certainement.
Et qu'elle dit « Bravo, mon fils ».
Elle dit « Bravo, mon fils ». Mais alors, moi, je creuse un petit peu cette question. Lady Di, elle a ébranlé la monarchie.
Mais elle aussi.
N'est-ce pas ? Bon, Harry semble carrément rejeté la monarchie, puisqu'ils ne seront plus d'ailleurs personne royale.
Mais ça se comprend.
Oui, mais est-ce que tout ça ne va pas fissurer justement la monarchie britannique et la rendre obsolète ? Roi et reine d'Angleterre, dans 10 ans, ça voudra dire quoi ? Est-ce que la monarchie ne va pas disparaître avec la reine Elisabeth ?
Mais non.
Qui va bientôt fêter ses 94 ans.
Mais non, je ne pense pas. Mais de toute façon, ils ont un couple parfait. Kate et William sont le couple parfait, qui ne font jamais rien de travers, qui sont impeccable dans leur posture, dans leur attitude, dans leur bienveillance. Ils ont eu 3 enfants. Ils sont merveilleusement parfaits. Et moi, j'ai envie de vous dire, ils sont là, ils vont être le roi et la reine consort. Tant mieux. Maintenant, fichons la paix à Harry et laissons-le être heureux. Et je pense que la monarchie, en tout cas, elle est bien partie, là. Regardez, ils vont être roi et reine. Prince Charles avant son fils. Ensuite, il y a eux. Et ensuite, il y a le petit Georges.
Et la reine d'Angleterre, celle qui fascine le plus de toutes les reines d'Europe. Effectivement, en avril, la reine Elisabeth va fêter ses 94 ans. Elle est la femme la plus célèbre du monde. Elle ne s'est jamais exprimée sur rien, n'est-ce pas ? Donc, on ignore en fait quelle est sa personnalité réelle, profonde. Avec tout le respect que je dois à la couronne, pardonnez-moi, mais on ignore si la reine est intelligente ou pas tout à fait. Ils en disent quoi, en fait, les Anglais, de cette fascination, justement, pour ce personnage avec lequel tout un pont de leur histoire va s'écrouler quand elle ne sera plus.
Mon fameux grand-père, dont on a parlé, Gladwin Jebb, vous vous souvenez de lui ? Bon, il connaissait très bien la reine. Et je peux vous assurer que j'ai toujours entendu dire qu'elle est assez brillante. Elle parle parfaitement français. Ma mère l'a connue aussi, la connaît aussi. C'est une femme remarquable. Alors, on a tous regardé The Crown. Vous aussi, j'imagine.
Bien sûr.
Bon, quand la reine va partir, beaucoup d'entre nous seront en deuil parce qu'elle représente un monde qui n'est plus là. Regardez tout ce qu'elle a vécu. Les guerres, les conflits, le nombre de premiers ministres, le Brexit, la mort de Lady Di. La reine est le miroir de notre époque. Elle est irremplaçable. She's doing a very good job, comme on dit. Elle fait du très bon travail. Ça ne doit pas être facile d'être la reine, surtout par les temps qui courent.
Alors, par les temps qui courent,
bah oui.
On a évoqué le Brexit. Et puis, bien sûr, cet élément perturbateur qui est devenu Meghan Markle, parce qu'on ne pouvait pas du tout imaginer lorsque 1,5 milliard de téléspectateurs ont regardé le mariage avec le prince Harry, qu'elle enlèverait son jeune époux pour l'amener sur le continent américain. Donc, Tatiana Drenet, Meghan Markle, c'est quand même un sacré personnage de roman.
Mais évidemment.
Elle n'écrirait jamais sur elle.
Mais pourquoi pas ? Mais je pense que plein de gens vont le faire. Mais déjà, métisse, belle, américaine, divorcée, intelligente. Elle est absolument fascinante. Son destin est extraordinaire. Mais rappelez-vous quand même, on a peut-être oublié à quel point Diana Spencer avait aussi...
ébranlé la monarchie.
Rappelez-vous sa confession fleuve, où elle a quand même avoué devant des millions de gens que son mari l'avait trompée, qu'elle avait trompé son mari, etc. Donc on oublie ce qu'était l'incroyable déflagration des confessions intimes de Diana. Et on oublie aussi les répercussions de la mort de Diana. On oublie ça. Je me demande d'ailleurs comment, si Diana était encore là aujourd'hui, donc elle aurait 58 ans,
comment, en fait,
comment elle s'entendrait avec Meghan. J'aurais tellement aimé voir ça.
Et ben voilà, posons-nous la question. On retrouve dans un instant Tatiana Drenet.
Europe 1. Fin de la conversation entre Isabelle Morizet et son invitée, la romancière Tatiana Drenet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Mais quelle balade passionnante en compagnie de Tatiana Drenet qui fait paraître chez Robert Laffont et Héloïse d'Ormesson les fleurs de l'ombre. Chère Tatiana, vous nous avez confié tout à l'heure que vos écrits de jeunesse étaient enfermés dans une boîte sur laquelle est inscrit « Ne pas publier après ma mort ». Mais alors, si vous ne les détruisez pas, à quoi sert-il de les garder ainsi, secrètement, consignés ?
Alors d'abord, honnêtement, je pense qu'ils ne vont intéresser personne si ce n'est ma famille. Je pense qu'il y a beaucoup de romans là-dedans. Ah non, mais j'ai une jolie histoire, ceci dit. Il y a un roman là-dedans qui va être publié.
Eh bien voilà !
Voilà, qui est un roman jeunesse et qui va sortir à la fin de l'année. Un roman que j'avais complètement oublié et que j'ai repêché dans cette boîte.
De temps en temps, vous l'ouvrez et vous exhumez
lors d'un déménagement, des jours, j'oublie ce qu'il y a là-dedans. C'est comme la boîte de Pandore. Et là, je suis tombée sur un roman qui parle d'amitié et de tolérance. Et je l'ai donné à mes éditeurs. Et ils m'ont dit, mais Tatiana,
ils ont tout de suite été séduits.
J'ai écrit ça, j'avais 28 ans.
Ouais.
Et ça va sortir à la fin de l'année dans la collection R, qui est pour les lecteurs, on va dire, entre 12 et 25 ans. Et je suis très très contente. Donc il y a des choses dans cette boîte.
Mais justement, vous qui avez bâti votre œuvre autour du concept du secret, n'est-ce pas ? Puisque dans cette boîte, il y a les journaux intimes, ouais, oui. Théâtre, des romans inédits, des nouvelles de science-fiction, même quelques textes érotiques.
C'est vrai.
Bon, finalement, la vraie Tatiana Drenet se trouve là. Votre ADN, il est là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais le secret est un thème tellement fascinant pour tant de romanciers. Je pense que je vais longtemps continuer à parler du secret des maisons, même si là, dans Les Fleurs de l'Ombre, j'en ai parlé très différemment, puisque c'est une maison moderne et qu'on est dans un futur.
Voilà, on est dans un roman d'anticipation.
Mais même dans le futur, les secrets continueront à fasciner, à inquiéter et à inspirer.
Paul Morand, grand écrivain disparu en 1976, s'était organisé pour que son journal intime, rebaptisé « Journal inutile », et publié en 2 tomes, de 1000 pages chacun, pour que ce journal donc ne paraisse pas avant l'an 2000. Bon, quand paraîtra votre journal intime ?
Je vous précise que Daphné du Maurier, son journal intime, elle avait écrit dans son testament qu'il ne pourra pas paraître avant, alors je crois que c'est 2035. Vous vous rendez compte ? Elle ne voulait vraiment pas qu'on le lise. Donc moi, je vais pouvoir le lire à 73 ans, le journal intime.
D'accord,
de
mais là, vous éludez ma question. Parle de vous.
Moi, honnêtement, je ne vois pas qui voudrait publier le journal intime de Tatiana Drenet, qui ne parle que de problèmes de garçon, d'amour, je me trouvais moche. Enfin, je les ai relus d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. J'ai retrouvé...
Bon, il y a bien un roman que vous considériez comme raté et finalement qui a complètement séduit vos auditeurs et qui va être publié dans peu de temps. Donc on peut imaginer qu'il peut se passer la même chose pour les autres récits.
Je ne crois pas. Honnêtement, c'est des choses tellement personnelles. J'étais une adolescente exactement comme les autres, obnubilée par son poids, qui se plaignait du fait qu'elle ne pouvait pas sortir le soir parce que les parents étaient sévères. Je ne vois pas qui ça pourrait intéresser, franchement. En plus, c'était en anglais.
Et qui se sentait, en fait, mal dans sa peau parce que ses parents étaient trop beaux, n'est-ce pas ? Avaient une aura physique.
Et ils l'ont encore.
Qu'ils ont toujours, d'ailleurs.
Bien sûr. Ça a été difficile de grandir avec des parents comme ça.
Il était difficile de se construire face à ce couple-là.
J'ai réussi. Mais c'était pas facile, parce que mes parents sont tellement solaires, tellement incroyables à regarder, mon père sportif, scientifique, ma mère...
Qui amenait le surf en France dans les années 50, sur les plages de Biarritz.
C'est vrai.
Il n'y avait pas de surfeur encore à l'époque.
Non,
donc,
il a été
grand scientifique et en même temps grand sportif.
Oui, c'est vrai. Ça fait partie de ses deux passions, la science, le surf et le ski.
Tatiana Drenet, vous avez, paraît-il, toujours un livre sur vous. Alors, que lisez-vous en ce moment ?
Eh bien, moi, je peux vous conseiller un magnifique livre par mon ami Gaëlle Nohant, que j'ai adoré, qui s'appelle « La femme révélée ». chez Grasset, qui raconte le parcours incroyable d'une Américaine. Ça se passe entre le Paris des années après-guerre et ensuite Chicago en pleine émeute raciale des années 60 et 70. J'ai adoré ce livre, mais j'aime tellement lire que je pourrais vous conseiller beaucoup de livres. Donc je conseille à mes lecteurs d'aller sur Instagram et de regarder le hashtag Favorite Books Tatiana ou Book Tips Tatiana, et là ils ont tous mes conseils de lecture.
Alors revenons au roman que vous faites paraître donc chez Robert Laffont et Loïs d'Ormesson, Les Fleurs de l'Ombre, roman d'anticipation que vous dédiez à votre père Joël de Renais. Bon, l'intelligence artificielle qui est au cœur de ce roman, l'intelligence artificielle c'est la somme de toutes les intelligences de la planète exprimées en algorithmes. Ça vient donc de l'humain qui l'a imaginé. Donc en fait notre ennemi c'est nous.
Oui, c'est nous. En même temps, nous ne pouvons pas nous empêcher d'aller vers le progrès. D'ailleurs, l'intelligence artificielle fait partie de notre vie maintenant depuis de longues années. On ne peut pas dire non, on va tout stopper. Maintenant, qu'est-ce qui nous rend humains, nous, par rapport aux robots? Et encore une fois, je veux laisser la place à la fragilité et à l'incertitude. Parce que tout ce qui n'est pas certain, tout ce qui n'est pas calculable, tout ce qui n'est pas précis,
parfait,
reste éminemment romanesque et éminemment attachant et
précieux.
Attirant et précieux.
Eh bien, plongeons dans les fleurs de l'ombre. Merci infiniment. À très, très
Merci
bientôt.
Merci à vous. À
Tatiana
très bientôt.
Drenet.
Merci à vous.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et demain, Isabelle Morizet, dès 15h, nous propose de réécouter son entretien avec le chanteur Garou, reçu à l'occasion de la sortie de son album Soul City, d'une tournée également.